12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux albums qui vous plongeront tour à tour dans les années 2007 et les années 60, dans une ambiance R&B ou une ambiance jazzy, posant clairement le problème du temps qui passe ou qui ne passe pas. Le dernier Justin Timberlake, Everything I Thought It Was, et Memento par Dominique Anne, que vous connaissez sous le nom de Dominique Anne, inspiré par les textes de Patrick Modiano.
Et on en débat ce midi avec vous, Jennifer Padjemi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivaine, face à vous Charles Arden. Bonjour Charles.
Bonjour.
Directeur des contenus d'Olyrix et de Classiqueo, soyez les bienvenus dans les Midis de Culture.
Et on commence avec l'album Memento par notamment Dominique A et Jean-François Mondeau.
Regarde-la, cette Aston Martin. Elle fonce, elle frime. Muscle d'acier sous son échine. Rue de Rivoli comme un rapace, elle passe. Regarde, regarde-la, cette Maserati. Les étincelles, la chaussée crisse, une jeune fille glousse. Sur le boule miche comme une anguille, elle glisse.
Des chanteurs qui adaptent des textes littéraires, d'accord, des écrivains qui écrivent pour des chanteurs, encore d'accord, mais connaissez-vous ce cas où un journaliste inspiré par un grand auteur, prix Nobel de littérature, Patrick Modiano pour le nommer, en vient à écrire des chansons qu'il donne ensuite à un grand chanteur, Dominique A pour le nommer aussi, pour qu'il les interprète? Eh bien désormais, vous pourrez dire oui, car c'est exactement le projet de cet album, Memento, dans lequel Jean-François Mondeau, fasciné par, je cite, la poésie du brouillard émanant des romans de Modiano, s'est mis à écrire 18 titres très courts pour ensuite les proposer au chanteur Dominique A, entouré d'un ensemble. Au final, un album entre énergie vitale du jazz et brume mémorielle. Qu'en avez-vous pensé de Jennifer Padjemi?
J'ai trouvé ça original. Quelque peu surprenant à la première écoute. On se demande, est-ce que c'est un projet amateur? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que... Enfin, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Même en allant sur une plateforme musicale, j'ai eu du mal à trouver rapidement l'album parce qu'il y a une affiche où on devine des personnes, mais... Voilà, c'est pas très clair au premier abord. Et ensuite, quand on se renseigne un peu plus, ça ne rend pas la chose plus aisée parce qu'il y a un côté méta avec un critique musical, donc qui reprend des textes d'un écrivain
qui
très
s'inspire,
connu,
oui,
qui s'inspire
oui.
D'un auteur à succès et qui propose un chanteur connu, Dominique A, mais sous un autre nom, Dominique Anne. Donc, il y a un côté un peu brouillon au premier abord, mais j'ai aimé la performance musicale autour du jazz, une forme de jazz libre, et surtout le fait qu'il y a quand même un amusement autour de ce projet où on sent que ce sont des passionnés qui se retrouvent autour de textes qui les touchent et surtout autour d'une musique qui les font vibrer. Et je pense que c'est le plus important dans ce projet à retenir.
Charles Arden.
Mais j'ai eu exactement le même parcours pour essayer de
saisir,
saisir
l'idée,
les
quoi.
Choses, voilà, retracer les points. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit fait exprès, mais est-ce que ça ne nous a pas fait aussi nous comporter un peu comme un petit Modiano musical, à chercher des indices, à repérer des traces? Bon, je dis ça plutôt au second degré, parce qu'on est vraiment très très loin de la merveilleuse, sublime quête qu'il y a dans les romans de Modiano. Ce qui m'a le plus dérangé dans ce projet, aussi bien dans l'annonce de son concept que dans le résultat, c'est que je trouve que Modiano, c'est pas ça du tout, c'est même l'inverse. Modiano, c'est pas, comme ça nous a été présenté, un brouillard, une poésie brumeuse et nostalgique. Enfin, si ça l'est, s'il y a une forme de brouillard et de nostalgie, tout le travail de Modiano, c'est par des recherches d'indices, par des parcours, par des détails qu'il repère.
Il y a des moments très concrets, justement.
Très très concrets, retrouver ça. Donc, j'ai trouvé que ce projet était à contresens. Le projet même, comme vous l'avez présenté me paraît vraiment un contresens de ce qui fait l'intérêt de Modiano. Le projet, il est présenté donc en effet comme un journaliste et critique qui donc a écrit des textes d'après des souvenirs. Donc c'est pas vraiment du Modiano. Il dit qu'il a tout relu, mais on a l'impression qu'il a tout relu pour mieux l'oublier. Et puis au final, surtout, je suis désolé, mais le résultat en texte, bonjour à mettre ça en chanson, bravo Dominique A. Ah non, Dominique Année, il a repris son vrai nom, vous voyez, on est dans cette recherche de l'identité, de la... Et le résultat, c'est très très dur à mettre en chanson. Les meilleures pistes de cet album, c'est ce qui ressemble le plus à du Dominique A quand il a un texte qui est un peu mieux travaillé, qu'il arrive à en faire de la musique.
Alors quand même, je reprécise un petit peu la genèse. Donc il y a effectivement ce journaliste critique de jazz, Jean-François Mondeau, qui relit tout Mondiano pendant le confinement. Bon, on va revenir quand même sur le confinement, qui a un gros gros problème en termes de sources.
On en souffre encore.
On en souffre encore, je vous le confirme. Donc il relit tout Modiano, il referme tous les textes et en fait il décide d'écrire à partir d'impressions. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait ça pourrait se dire que c'est un principe créatif qui pourrait ressembler à aussi Modiano, qui fait une sorte de quête aussi à partir de ses souvenirs, même si ça peut être sous forme d'indice, comme vous l'avez dit, Charles Ardenne. Et à partir de là, se dit Dominica serait le meilleur pour mettre en musique et pour interpréter. Et c'est vrai qu'on garde quand même de ça une sorte de balade qui au départ peut paraître un petit peu, quand on a entendu les premières secondes, autant le dire, dans le studio, on a ri parce qu'il y a quelque chose un petit peu daté. Et en même temps, on se laisse très vite porter quand même. Il y a 13 chansons, il y a 18 titres avec des interludes et tout. Vous, Jennifer Padjemi, vous avez quand même trouver une forme de plaisir ou de découverte?
J'ai trouvé du plaisir dans certains titres, mais pour rejoindre Charles, je dirais même que les deux premiers titres où il n'y a pas de paroles sont les meilleurs, parce que elles
les interludes, quoi.
Voilà, les interludes, parce que elles convoquent quelque chose beaucoup plus précis du jazz, et on entend bien les instruments. À partir du moment où il y a des paroles, on se perd un peu parce que il faut se concentrer, essayer de comprendre qu'est-ce qui vient de Modiano, qu'est-ce qui vient de juste l'inspiration. J'ai trouvé du plaisir, mais sur autant de titres, pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que on peut garder peut-être 4-5 titres qui parlent, qui invitent à la balade, qui invitent à l'émotion et qui rappellent un pari d'antan. Mais tout l'album à écouter plusieurs fois, je pense que c'est plus compliqué. C'est quelque chose qu'on écoute un peu en fond, qu'on écoute peut-être en faisant autre chose, peut-être en se reposant. Mais je pense pas que ce soit un album phare de l'année qu'on retiendra.
Charles Ardenne, est-ce qu'en fait finalement c'est pas un peu trompeur en fait d'avoir mis Modiano comme ça un peu en figure tutélaire, parce qu'en fait on écoute cet album en disant je veux retrouver du Modiano, si on est un grand lecteur de Modiano, si on le connaît bien, et du coup en fait on est déçu parce que c'est pas du Modiano, en fait c'est pas du Modiano.
Bien sûr, j'ose espérer, en tous les cas je veux plaider la bonne foi que j'ai essayé de dépasser ce prolégomène problématique, mais oui c'est sûr, j'ai essayé quand même de le dépasser parce que à chaque fois on se dit la même chose. Pareil quand, je sais pas moi, on va voir un film adapté d'un livre. Bon à chaque fois on dit la même chose. Ah, je préférais le livre. Ah, j'ai été déçu par le film. Oui, mais parce que c'est pas le même objet, c'est pas le même média. Donc je plaide l'honnêteté et je plaide de m'être plongé dans ce projet en me disant bon, d'accord. Eh bien, essayons de voir s'il arrive à évoquer lui ses inspirations de Modiano, à en faire des choses, à relier ça. Et franchement, le résultat, je trouve que il y a pas assez de Mondeau et il y a peu de Modiano en fait, et on reste dans une forme d'entre-deux, ni l'un ni l'autre. Et puis comme Jennifer l'a dit, après je me suis quand même plongé dans l'écoute, dans la réécoute. Je dis pas que je l'aurais réécouterai, je dis pas que ça restera dans les mémoires, je pense pas que c'est un memento qui rentrera dans les annales, mais c'est sûr que quand vous mettez de tels musiciens dans un studio pendant 4 jours, le résultat musicalement il est pas inintéressant.
On va écouter une autre chanson qui s'appelle Épais brouillard.
Mon père partait en Afrique pour chercher de l'or, du fer ou une blonde. Ma mère partait en tournée pour chercher de l'air. Moi, je restais là. Et mes parents me laissaient au petit bonheur, au petit malheur chez leurs drôles d'amis, parfois des méchants, parfois.
Dominique Anne et Dominique A, qu'on entend chanter, qui a composé ce titre épais brouillard et qui est entouré, il faut le dire, donc de grands noms du jazz français européen, le pianiste Stéphane Oliva, le contrebassiste Sébastien Boisseau, le batteur Sacha Tourop. Il y a quand même, indépendamment de Modiano, est-ce qu'on peut prendre du plaisir à écouter cet album, mais aussi en fait une forme de voilà, il y a une vraie proposition de jazz dans ces morceaux-là, quelque chose autour d'un ensemble, ce qui fait que Dominique A n'est pas Dominique A, mais Dominique Anne, ce qui fait que Modiano s'efface et qu'en fait, on s'intéresse au collectif, Jennifer Padjemi.
Oui, et je trouve que c'est une proposition même de jazz à la française, comment on peut réinventer une musique qu'on connaît bien, un genre qu'on connaît bien, en l'associant à un rock alternatif, à des mélodies qui rappellent plus la variété française. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce qui m'a vraiment interpellée aussi, c'est le fait de pouvoir reprendre un texte en musique et de pouvoir réécrire quelque chose en musique. On le voit pas tous les jours et je pense que ce serait intéressant de voir ce que d'autres artistes pourraient faire, d'autres œuvres littéraires et même de prix Nobel ou de Goncourt ou d'auteurs très très connus. C'est intéressant de voir quelle proposition artistique ou musicale peut être tirée d'un livre et d'un texte plutôt formel, littéraire. Et ça, je pense que je verrais bien d'autres artistes le faire, pour le coup.
Mais la question se pose, d'ailleurs, est-ce que là, la musique, c'est quelque chose d'illustratif ou est-ce qu'il y a une vraie invention, Charles Ardenne ?
C'est vraiment toute la question. Et c'est là aussi où cet album est intéressant musicalement. Mais je trouve qu'il reste dans un entre-deux. C'est que il hésite, des fois en cours même d'une même piste, d'un même morceau, entre illustratif, figuralisme, ce qu'on appelle figuralisme, c'est-à-dire des fois la cymbale va vraiment essayer littéralement de donner un effet de brouillard. On joue aussi sur des résonances. Enfin, ça a été enregistré quand même au studio La Buissonne, qui est aussi un haut lieu jazzistique.
Oui, c'est un studio mythique et ils se sont dit, le studio se libère pendant quelques jours, il nous propose, voilà. C'est l'occasion jamais. En fait, c'est une série d'occasions, cet album.
Ouais, c'est exactement ça, une série d'occasions. Encore une fois, ça fait pas un objet impérissable, mais ça fait une session intéressante. On a l'impression d'être dans le studio un peu avec eux, et ils ont gardé, comme ça a été très bien dit, une dimension aussi très 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 française. Donc à la fois de musique qui peut être narrative et improvisée, ça replonge aussi dans une certaine manière des racines du mélodrame qu'on avait aussi dans la forme musicale classique et théâtrale, c'est-à-dire une musique qui donne une ambiance, qui va accompagner un texte par des illustrations plus ou moins précises des objets qui sont évoqués. On aurait quand même pu aller beaucoup plus loin, notamment quand on évoque le brouillard. Voilà, je vais pas faire un dessin. Il y a énormément d'enjeux qui sont tellement profonds et essentiels dans l'œuvre de Modiano, qui est une œuvre post-Shoah, post-catastrophe. Du coup, le choix interroge.
Donc c'est vrai que la durée des chansons, c'est 2 minutes. Ça peut être vraiment très court, même parfois un peu moins, un tout petit peu plus. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de l'ébauche. Pour finir, cet album, il s'adresse à qui ? À des lecteurs de Modiano, à des amateurs de jazz, à des fans de Dominica, Jennifer Padjemi ?
Un peu à tout le monde, mais principalement aux lecteurs de Modiano qui penseraient se retrouver...
Et qui vont être déçus,
qui vont plutôt être déçus.
Oui. Moi, lecteur de Modiano devant l'Éternel, j'étais extrêmement déçu. Il s'adresse aux auditeurs de France Culture, de FIP, il s'adresse aussi à nous, et c'est un très bon public.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Nous parlions de Memento il y a quelques instants par Dominique Anne, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva, Sacha Tourop et Jean-François Mondeau. C'est sorti chez La Buissonne, chez Pia. On change de style musical. Voici Justin Timberlake, Everything I Thought I Was.
You gon' be a star, they said. They said, don't waste your tomorrow, they said. They said, you're the one that's chosen to make it out.
gotta seize the moment, don't let us down. Just gotta play a part, they said. In history, you'll be a part of it. I mean, what's better than having everything that you dreamed of? Long as they need you, you don't need love. Just be great. Put on for your city, for your state. And whatever you do, just make us proud. Ain't gonna be no crying from the clouds. Yeah, they say, just be great. Who cares if there's too much?
Personnellement, j'avais lâché l'affaire avec Justin Timberlake depuis 2006, pas que j'y étais très attachée d'ailleurs. Alors certes, l'artiste pop de son boys band NSYNC à sa renaissance R&B avec le producteur Timbaland, de l'affaire du Super Bowl avec Janet Jackson et son sein découvert à la rupture avec Britney Spears, a rythmé mes jeunes années. Mais de là à l'élever au rang d'idole, non, jamais. C'est pourtant à ce titre que son sixième album studio était attendu, qu'allait nous proposer l'artiste aux 54 millions d'albums vendus et aux 10 Grammy Awards. Qu'allait-il chanter, lui, le chantre d'une époque révolue qui avait su se réinventer aux dépens des stars de son époque et sur leur dos parfois aussi, tels Britney et Janet Jackson. Eh bien, la même chose, à en croire ces 18 titres sur lesquels le temps ne semble pas avoir fait son œuvre. Entre des chansons pop, R&B et des ballades sur des cordes, qu'en avez-vous pensé, Charles Ardenne, bouffée de nostalgie bienvenue ou ratage complet?
Bouffée de nostalgie, oui forcément, parce que comme vous, j'ai grandi avec NSYNC, Worlds Apart, et puis notre magnifique patrimoine culturel national.
Les
voilà, vous me voyez venir, n'est-ce
des
pas
boys band, quoi.
Absolument, les boys bands, qui sont toujours d'ailleurs vivants. Ils se sont baladés. Maintenant, ils sont plus en Asie. Hein. La K-pop, c'est une version des boys bands qui cartonne et qui remplit des stades. J'ai suivi Justin Timberlake post boys band dans son parcours solo, parce que ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un peu un baromètre, un modèle dans le sens vraiment littéral du terme de ce qu'est la musique, des styles, de l'évolution, de l'avancée. Il reprend tout ce qui existe et tout ce qui marche. Comme vous le dites, il est indémodable. Ça a l'air nouveau, mais en fait ça a rien de nouveau. Hein. Il reprend les choses qui marchent depuis 5 ans, depuis 10 ans. Il ressemble tellement à ce qui fonctionne que à des moments j'ai regardé la liste de pistes et les invités pour voir si c'est lui dont on avait modifié la voix au point qu'elle ressemble à Kendrick Lamar ou Bruno Mars. Je me demandais même si c'était des featuring. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils ont juste tellement modifié sa voix pour qu'elle ressemble à ce qui fonctionne. Pareil musicalement, c'est un caméléon et Roland Barthes avait raison. Le principe de la mode, c'est que c'est toujours à l'air du temps et c'est indémodable.
Jennifer Padgemi, est-ce que vous étiez contente de retrouver Justin Timberlake?
Oui et non. C'est compliqué.
Il faut faire un point. Sur
Justin Timberlake, parce que, comme vous, j'étais. Alors, pas comme vous, parce que vous n'étiez pas fan, mais moi, j'étais fan quand j'étais plus jeune, et notamment sa période R&B 2006, enfin, les années 2000.
Timbaland,
etc. Ça a été vraiment des années pionnières pour la pop, le R&B populaire, et c'est vrai qu'il a fait danser les foules et il avait une aura de célébrité qui rassurait tout le monde. Entre-temps, il y a eu plein de déboires, notamment le fameux Super Bowl avec Janet Jackson.
Donc il danse avec elle et il arrache en fait une partie de son t-shirt, c'est le fameux téton qu'on voit.
Voilà, c'est le Nipplegate, voilà. Sauf que pendant que Janet Jackson, donc, qui est une artiste femme noire, a été rejetée par l'Amérique entière, donc l'Amérique puritaine, Justin Timberlake s'est fait est monté petit à petit et s'est fait une place en fait dans l'industrie musicale pendant que Janet Jackson était devenue une paria. Voilà. Et donc ça a pris des années avant qu'on puisse connaître les coulisses de tout ce qui s'était passé, les sorties qu'il a pu faire après et la manière dont il s'est vraiment amusé de cet épisode et passé en fait à slalomer en fait les scandales pendant que Janet Jackson était une paria. Ensuite, plus récemment, il y a Britney Spears qui a sorti son autobiographie où on apprend donc des épisodes d'avortement.
Ils ont été en couple.
Voilà, ils ont été en couple pendant des années. C'était le couple phare des années 2000. Le premier album de Justin Timberlake revient justement sur cette rupture et avec des paroles plutôt sexistes où il dit clairement qu'elle peut... elle peut aller voir ailleurs pendant que lui est en train de monter sa figure en fait d'artiste solo. Et donc c'est vrai que récemment il y a eu plusieurs choses qui sont sorties, à la fois des documentaires sur le Nipplegate et donc cette autobiographie qui reviennent sur la figure de Justin Timberlake et qui est pas du tout le petit fiancé de l'Amérique comme on pouvait le penser à l'époque, plutôt l'inverse. Et donc on voit que cet album c'est un peu l'album du mea culpa, de la rédemption, où il essaye en fait de revenir sur le devant de la scène en s'excusant presque auprès d'un public qui aujourd'hui ne l'aime pas beaucoup. Donc on le voit aussi avec depuis la sortie de son album où les premiers retours sont très durs. Les fans de Britney Spears sont dans tous les commentaires de Justin Timberlake pour lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu sur ce retour médiatique en force. Sauf que à côté de ça, on voit que les médias l'accompagnent aussi dans ce retour et que la manière dont il présente son album, donc notamment la première chanson Selfish, le premier single qui est sorti, il y a eu tout un storytelling autour de la nostalgie. C'est devenu viral sur TikTok avec des trentenaires qui revivaient justement des réminiscences des années 2000. Et en fait, en écoutant l'album, on sent que il est pas tout à fait présent et que sa proposition est un peu bancale parce que à la fois il veut jouer sur de la nostalgie et en même temps il veut plaire à un public plus jeune. Donc c'est comme si il voulait rappeler en fait à ses fans trentenaires qu'il existe et qu'il est toujours là comme il était il y a 20 ans et en même temps potentiellement plaire à leurs enfants si elles en ont eu entre-temps.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait cet album qui devrait être un album de la rédemption en fait est assez vide de lui en fait. C'est-à-dire qu'il y a rien de lui, il s'excuse sans s'excuser s'il n'est pas là, Charles Ardon.
Oui, il s'excuse sans s'excuser. D'ailleurs... Enfin, ces histoires sont très tristes et très glauques. Et
oui, qu'est-ce qu'il raconte dans ses chansons? C'est des excuses, c'est de la nostalgie, c'est quoi?
Ah non, pardon, les histoires. Je parlais plus de la côté du musical et de voilà. Vous avez des sites qui sont spécialisés là-dessus, qui vont vous dire ah il a dit ça dans tel concert. En fait, c'était un message à Britney. Il a dit qu'il jamais je m'excuserai. Et puis en fait, il s'excuse. Et puis elle a enlevé son post Instagram où elle disait. Et puis voilà. Bon, tout ça aussi. Le problème, c'est que ça nous rappelle que ces gens-là sont ok. Des produits musicaux et c'est des artistes, mais ils sont quand même aussi pensés dans le cadre d'une industrie qui doit faire vendre, qui doit faire parler. Et donc c'est pour ça qu'on a eu le couple Timberlake Britney Spears à l'époque quand ils étaient jeunes. Et c'est sûr que quand on parle de l'avortement, quand Britney Spears, pour vendre son autobiographie aussi d'ailleurs, parle de son avortement et que Justin lui avait dit qu'il n'était pas prêt à être père, etc., ça écorne cette image de jeune, de couple modèle, de jeunes bons sous tout rapport, de genre idéal, des boys band, etc., etc. Et musicalement, le problème est dans ces textes, c'est que à la fois il s'excuse, mais en même temps pas vraiment. Et il y a toute cette idée, ce principe qu'il a depuis ses débuts, c'est il est gentil. Il est un peu méchant quand même. C'est pas un ange, hein. L'épi, c'est no angel. C'est, voilà, ça parle un peu de sexe. Attention, maintenant, il dit même des gros mots, hein. Mais au final, il est pas si méchant. Vous regardez ses clips. Ah, il est beau sous tout rapport. Ah, il va ouvrir le coffre de sa voiture. Il y a un monstre. Il y a une version monstrueuse de lui. Il est un peu méchant quand même. Mais en fait, il est pas si méchant que ça. Ça reste gentil. Ça reste prude. Ça reste l'Amérique quand même.
Say no more, yeah, let's go. Let's go. You and me when we fucking up the disco. Ooh, what a scene, and we both know. Top line on that body, and she feel like a hit though. But the groove's on the retro. Cold, somebody get a fit though. It don't make sense though, really though. You and me when we fucking up the
looking like a whole scandal. Walked in with thought of that looking like all I can handle. You looking for worship, baby? Well, hey, I got a mantle. Got my Gucci Crocs on right now, but we can slide like sandals. Let me flip it like a sample, 'cause I'll be doing it right.
Fucking Up the Disco. Voilà un titre que vous n'aimez pas du tout, Jennifer Padjemi, et ça ne ressemble pas à la totalité de l'album, il faut le dire. Hein.
Non, parce que l'album a des tonalités beaucoup plus R&B sur la moitié des chansons. Il faut rappeler qu'il y a 18 titres, ce qui est beaucoup. Et encore une fois, c'est un artiste qui n'a pas su choisir et il a voulu mettre un peu de tout ce qui se fait en ce moment. Et comme le disait Charles au départ, Justin Timberlake a toujours été un chanteur en fait qui empruntait autour de lui et notamment à la musique noire. Et aujourd'hui, cet album, c'est un peu une manière de nous dire je reviens à mes racines, je reviens à mes origines après m'être perdu. Et notamment, on se rappelle de cet album Man of the Woods où en gros il s'est essayé à la country, à la folk, on comprenait pas
ça
trop ce qui se passait.
Oui, oui, bah ça m'a tout pensé. Voilà, l'homme des bois, quoi. Justin Timberlake, l'homme des bois, dans ses clips, il avait sa chemise de bûcheron, voilà, et il allait dans une petite cabane, enfin n'importe quoi.
Et c'est le moment comme plein d'artistes en fait qui ont emprunté à la musique noire, ils voulaient revenir vers ses racines plutôt du terroir de l'Amérique profonde, sauf que ça n'a pas marché et pendant quelques années on ne l'a plus vu du tout. Et donc là en revenant avec cet album, on voit Memphis au
qu'on
départ
a entendu au tout
voilà
début,
qu'on,
oui.
Qu'on a entendu en début d'émission, Memphis, donc pour nous dire voilà, je sais d'où je viens, je me rappelle d'où je viens, etc. À la fin, pour fermer l'album, il y a un feat avec les NSYNC, donc son groupe.
Ça faisait 23 ans hein, qu'ils n'avaient pas chanté ensemble. Ils s'étaient retrouvés pour la bande originale des Trolls.
Oui, et ils se sont retrouvés il y a quelques jours lors d'un concert. Et ça a ravi plein de fans. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il nous dit. C'est je suis de retour. Je suis là, en fait, pour mes fans de la première heure. Mais bon, c'est un peu raté. Je voulais juste aussi rappeler qu'il a fait un Tiny Desk pour la première fois. Ce qui est quand même l'endroit où les artistes doivent passer pour se faire bien voir en fait du public. Et le Tiny Desk est mieux et meilleur que son album, ah bah. Ce qui en dit long.
Un dernier mot, Charles Arden.
Et pendant ce temps-là, pendant que Justin Timberlake reprend des styles de ci, de là, vous avez la reine Beyoncé qui reprend ses racines country et les racines de l'Amérique.
Et
magnifique.
Ben, on pourra en parler. Justin Timberlake, Everything I Thought It Was, c'est chez RCA Records. Je précise que Justin Timberlake sera en concert à Lyon les 6 et 7 septembre à la nouvelle LDLC Arena. Merci à tous les deux, Jennifer Padjemi, Charles Arden. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.